France Musique. Bonjour Guillaume.
Bonjour Gabriel.
C'est vendredi, jour de la chronique et le charme opéra. Alors, qu'est-ce qui vous a charmé cette semaine, Guillaume ?
Rien du tout, Gabriel. Ah. Aucun spectacle. Mais non, nous allons plutôt nous transporter dans un lieu assez opaque et inconnu du public. Pas forcément charmant, mais intrigant. Nous allons visiter la tête des directeurs d'opéra. Alors, dit comme ça, c'est très choquant, mais vous allez voir, nous en sortirons sans mal. En ces temps troublés, où l'on ne sait même pas où est passé Jean-Baptiste Urbain, où l'on ne sait jamais si l'on va pouvoir sortir de chez soi la semaine suivante, quand la préparation d'une production d'opéra prend, elle, plusieurs semaines de façon certaine, à partir de quand les directeurs prennent-ils le risque de maintenir des spectacles ? Il existe plusieurs paramètres. Il faut déjà savoir que les opéras sont des établissements subventionnés qui, dans le meilleur des mondes, à quelques exceptions près, bénéficient de ce qu'on appelle le théâtre en ordre de marche. C'est-à-dire que leurs subventions couvrent leurs frais structurels. S'ils ne proposent pas de spectacle, ils ne perdent pas d'argent.
Ils pourraient donc ne rien produire.
Bien sûr, et mettre leur personnel en chômage partiel. Mais voilà, les directeurs ont programmé des saisons qui leur sont chères car elles racontent leur vision de l'opéra, qui sont trouées par les couvre-feux, qui sont aussi augmentées de spectacles déprogrammés lors des premiers confinements et qu'il faut bien épurer. Et puis, il y a quand même des missions de service public à remplir. Donc, les directeurs cherchent à produire, même sans spectateurs, donc sans billetterie, sans argent, mais avec la certitude du risque. C'est alors que survient la clé des nouveaux modes de production, la diffusion. Tant qu'il peut s'assurer une diffusion, le directeur de théâtre n'hésite pas, il produit à huis clos, sans public ni billetterie. Cette diffusion, c'est par exemple France Musique qui va mettre en onde un opéra, ce sont aussi des captations vidéo qui passeront ensuite sur des chaînes.
Et on en parlait tout à l'heure avec Hervé Boissière pour Medici, mais ça coûte cher d'organiser une captation, ça augmente au contraire le budget du spectacle.
Que vous êtes maligne, Gabriel. Ah. L'interaction est à double sens. Le directeur débourse de l'argent pour capter le spectacle, oui, mais il en perçoit aussi pour financer son spectacle en vendant les droits de diffusion. Mais vous avez raison, ce n'est quand même pas suffisant. C'est alors qu'interviennent les aides extérieures. Le mécénat, bien sûr, qui fonctionne ces temps-ci en sous-régime, mais persiste néanmoins sur des projets, même en streaming, ou pour accompagner certaines maisons. Et il y a surtout les nouvelles aides du plan de relance pour la culture, notamment le programme aux diffusions alternative qui permet aux institutions de toucher jusqu'à 150 000 euros pour des captations. C'est précisément ce qui a permis à l'Opéra de Rouen de mettre sur pied la reprise de Pédéas et Mélisande, diffusée sur une chaîne régionale, ou qui incite l'Opéra Comique à maintenir sa nouvelle production Titon et l'Aurore, diffusée sur Mezzo.
En gros, sans les aides à la diffusion, plus de spectacles vivants en fait.
De nos jours, non. C'est paradoxal, hein. Le spectacle vivant se rapproche pas à pas des modes de financement du cinéma. Comme les films, ils ne peuvent être produits que s'ils sont assurés d'avoir une fenêtre de tir télévisuelle. Et tout à fait entre nous, quand le directeur d'opéra voit que c'est la vidéo sur des modes de financement cinéma qui le sauve, je vous assure qu'il en a un peu ras-le-bol et trépigne de retrouver son public et ses vieux calculs de billetterie.
Merci beaucoup Guillaume Thion pour cette chronique, réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. À la semaine prochaine avec Jean-Baptiste Urbain, je vous rassure.
À réécouter sur francemusique.fr.